Bien. A priori, on pense que Adam Arishon, avant la faute, il avait la Torah. De par sa nature élevée, le fait qu'il était dans Gan Eden, sa perfection, a priori, c'est ça la situation de la Torah, non? On voit aussi qu'il a apporté un Coran, Adam Arishon. Il avait des mitzvot, il avait une mitzvah assez et une mitzvah de lota assez, c'était... Ça lui a été dit sous la forme de le Ovdo, le Shomro, de garder, de travailler et de garder le Gan Eden. C'était son travail, c'était une mitzvah, de travailler, c'est une mitzvah d'assez, et le garder, la Shmira, c'est toujours une mitzvah de l'Ota assez. Et que, après la faute, évidemment, il a fallu redonner la Torah en quelque sorte. Avec la faute, il a été chassé du Gan Eden, sa situation a complètement changé. Là, l'humanité a besoin qu'on lui donne la Torah. Mais cette idée que Adam Arishon avait la Torah avant la faute, c'est semble-t-il une idée fausse. Dans la Tfila de Shabbat, de Yom Tov, on a inséré ce qu'on appelle des piyutim, on a inséré des poèmes qui en général ont été écrits par des rishonim ou encore même avant. Donc, dans le monde Sfarad, par exemple, il y a un Rosh Hashana, Yom Kippour, on a beaucoup de piyutim de Rabbi Yehuda Halevi, de Im Gavirol. Les Ashkenazim, ils ont des piyutim de quasiment des Baalei HaTosfot. Le Shabbat, par exemple, on a inséré dans la Tfilat Shacharit le Keladon. Keladon, il n'est pas normalement dans la Tfilat. Le Shabbat, nous Sfarad, on le dit, je crois, Yom Tov aussi. Chanton, Al-Kolama Asim, etc. Tout c'est un piyut qui dit la louange d'Hachem, etc. Rosh Hashanah, Yom Kippour, il y en a beaucoup, mais il y en a en fait pour tous les Yamim Tovim. Et ce sont des textes qui en fait disent des choses très souvent absolument fondamentales, ou bien ces choses-là on les retrouve, on connaît la source c'est la Gemara, ou c'est Baalei HaTosfot, etc. ou d'autres rishonim. De toute manière, des fois, ils ont une valeur en soi, parce que des fois, c'est seulement dans ces piyutim-là que certaines choses ont été dites explicitement. Des fois, de façon extrêmement poétique, donc il faut beaucoup travailler pour comprendre ce dont il s'agit, mais les choses sont dites, ce qui ne sont peut-être pas dites explicitement ailleurs. Il y a un piyut qui est fait pour le deuxième jour de Shavuot, dans lequel, effectivement, on parle de la condition de Adam Arishon, et dans ce piyut là, qui est construit entièrement sur des paroles des Chachamim, on rapporte cet enseignement que peut-être dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui dit que quand Hachem a créé la Torah, il a écrit la Torah, et puis ensuite il a présenté la Torah à Kol Tzadik ve Tzadik, mais Adam ve Ad Moshe. Et à chaque fois on a demandé à la Torah, est-ce que tu veux être donné à ce Tzadik-là? Est-ce que tu veux qu'on te donne aux différentes tzadikim? Et à chaque fois, la Torah a trouvé un défaut et elle a refusé. Elle n'a accepté finalement que d'être donnée à Moshe Rabbeinu. Donc le Midrash, ça ressemble à un roi qui a, bon, il a une fille qu'il aime, mais il veut pas la donner en mariage sans son accord, et donc il va lui demander systématiquement, est-ce que celui-ci, ce prétendant te convient, celui-là, etc. Mais à chaque fois, elle trouvait un défaut à tous les prétendants. Jusqu'à ce que vienne celui qu'elle désire. La Torah aussi. Elle a trouvé un moum, elle a trouvé un défaut à chaque tzaddik. Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et à Moshe Rabbeinu, elle était d'accord. On voit donc que c'est marqué « Kol tzaddik ve tzaddik me Adam ad Moshe Rabbeinu ». C'est-à-dire le Adam Arishon non plus. La Torah n'a pas voulu être donnée à Adam Arishon. Semble-t-il, si Adam Arishon avait tenu le coup, s'il avait réussi, s'il n'avait pas fauté, alors peut-être qu'il aurait mérité de la recevoir, la Torah, mais a priori, non. Tu auras vu déjà qu'il ne tiendrait pas le coup, probablement. Parce que la question n'est pas de la lui donner après la faute, puisqu'à ce moment-là, il n'est plus à Kol Tzadik Vet Tzadik. Et la question qui se pose, c'est, avant la faute, qu'est-ce qui manquait à Adam Arishon que la Torah aurait pu lui donner? D'accord, on lui aurait donné la Torah. La Torah, elle vient pour nous aider. Sur quel point est-ce qu'Adam Arishon devait être aidé? Il avait a priori une shlemut, une perfection du corps, une perfection de la neshama. Il avait Ruach HaKodesh. Il avait accès, compréhension, connaissance du monde. Et il était très proche d'Hachem, il avait tout, semble-t-il. On voit de ce texte que deux chidushim en fait. Premièrement, on voit jusqu'où va le Tselem Elohim sans Torah. Adam Arishon, il était Betzelem Elohim, ça c'est sûr, sans la Torah. Puisqu'on dit qu'il n'avait pas la Torah. Et deuxièmement, on voit aussi où commence la Torah en quelque sorte. Ça veut dire qu'après tout cela, après tout ce qu'il avait, en fait, il aurait eu encore besoin de la Torah. La grandeur de Tselem Elohim, au niveau de sa capacité de Asaga, sa possibilité d'accéder à la connaissance, au niveau de son action, elle est claire. On sait bien que Adam Arishon, il a été capable de nommer toutes les créatures. Ça veut dire qu'il savait exactement, il connaissait parfaitement toutes les créatures, au point que, ça on le voit par la comparaison avec Bezalel, que Adam Arishon savait avec quelle lettre chaque créature avait été créée. C'est ce qu'on dit, Yada Bezalel et Tsaref Otiyot Shebaim Nivra Olam, le monde a été créé avec des lettres. Et lui, il savait quelle lettre avait été utilisé pour la création de chaque créature. C'est pas pour rien qu'on a donné cette tâche à Adam Arishon de nommer. Ça n'a pas été donné aux Malachim, pas été donné aux anges. Parce que par sa force de Tselem Elokim, Adam Arishon était Kolel Kol HaKochot. Il incluait, il avait en lui toutes les forces. Et il était même à mesure de toutes les forces qu'il y a dans le monde. Sa Kdusha, la Kdusha devait être absolument extraordinaire, puisque les Malachim se sont trompés et qu'ils ont voulu l'adorer lui. Ils l'ont pris pour Hachem, si on peut parler comme ça. Ils n'ont pas réussi à faire la différence entre la Kdusha de cet Adam Arishon et la Kdusha d'Hachem. Le Nefesh HaChaim explique le nom Elohim. Il rapporte le nom divin Elohim. Il y a différents noms divins. Le plus grand nom divin, c'est Hachem, c'est le tétragramme. Et puis ensuite, plus bas, il y a le nom divin Elohim. Et Nefesh HaChaim rapporte au nom du tour, Bala Turim, que ça veut dire Baal Kochot Kulam, le maître de toutes les forces. Toutes les forces, tous les principes du monde. Ça, c'est Elohim. Toutes les lois sont des Elohim. Et Elohim, il est au-dessus de tout, de toutes ces lois, de toutes ces forces. C'est pour ça qu'il n'est pas dit Tsel, Betselem, Shakai par exemple, ou un autre nom divin. Tselem Elohim. Ça veut dire que le Créateur a donné à Adam Arishon aussi, enfin, il lui a donné la Baalout, la domination sur les créatures. On sait très bien, c'est marqué, vous devez conquérir la terre, la dominer, etc. Il avait le pouvoir, Adam Arishon, de les élever avec lui, ou il pouvait aussi les détruire avec lui. Virdu bidgatayam, zachou rodim, lo zachou yordim. C'est marqué, ils domineront les créatures de la mer. C'est marqué Yerdou. Rodé, ça veut dire dominer. Alors, si les Bnei Israël, si les hommes se conduisent bien, ils sont Rodim, ils dominent. Et sinon, vous entendez le mot Yerdou, on peut le lire aussi Yordim, ils descendent. Bon, ils chutent en même temps que lui, que l'homme. Donc en d'autres termes, si on résume la position de départ là, dans ce piyout on voit que Adam Arishon avant la faute, il n'avait pas tout. Toute sa grandeur lui venait de ce qu'il était de Tselem Elohim. Mais c'est énorme. Là, on est étonné de deux aspects. Premièrement, on voit la puissance de Tselem Elohim, tout ce qu'on a dit d'Adam. Et deuxièmement, c'est qu'après toute cette grandeur tellement impressionnante, il y a encore de la place et même une nécessité pour la Torah. Et donc, on répète la question, qu'est-ce qui manquait à l'homme, à Adam Arishon, avant la faute? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah qui aurait comblé ce qui lui manquait? Le Nahash, quand il parle à Chava, il lui dit Yoda, qui Yoda Elohim, Elohim sait très bien que le jour où vous mangerez de cet arbre de la connaissance bien et mal, alors vos yeux se dessineront, ils se s'ouvriront, et vous serez comme Elohim, vous connaîtrez le bien et le mal. Et Rashi dit, qui yodea, qu'est-ce que le Nachash dit à Chava? Il lui dit que Hachem sait. Et pourquoi est-ce qu'il vous l'interdit? Rashi dit, kol uman soned bnei umanato. Umanuto. Tout artisan a de la haine pour les concurrents. Il veut pas que le concurrent sache, connaisse son savoir-faire, son tour de main, etc. Donc le Nachash lui dit, comment est-ce que Hachem a créé le monde? Il a mangé de cet arbre, lui. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Et il vous interdit de faire le même, parce que sinon vous seriez comme lui. Et il ne veut pas que vous soyez comme lui. Ça, c'est l'argument avec lequel il a séduit Chava. Ça veut dire que c'était un argument séducteur. Quand on dit qu'il était le plus roublard, ça veut dire qu'il savait exactement ce qu'il fallait dire, donc il connaissait parfaitement le point où il fallait appuyer chez l'être humain. Et voilà, il est dit ce point. Le point sur lequel il faut appuyer sur l'être humain, là où ça fait mal en quelque sorte, c'est la volonté de l'être humain et la frustration donc de ne pas être créateur de monde. Et c'est ce qu'il lui dit. Vous voulez être créateur de monde? Vous pourriez. Il suffirait de manger de cet arbre. Si Hachem vous l'a interdit, c'est uniquement pour vous en empêcher. Les hommes seront des artisans au même titre que Akadosh Baruch Hu, Bnei Umanuto, puisqu'à ce moment, eux aussi vont créer des mondes. Voilà, plus grand que la grandeur. C'est Adam Harishon qui est capable de. Il a une connaissance absolue, quoi, on peut dire pratiquement. Kara Shemot, il va nommer toutes les créatures. Donc il connaît tout. Sa chokhma est bien plus grande que celle des Malachi HaSharet, que celle des anges de service. Lui, il sait exactement quel est le roi HaKodesh, en fait, de chaque être, de chaque créature. Puisqu'il sait exactement quelles lettres ont été utilisées pour le créer. Donc, il sait, il connaît parfaitement. Son analyse est parfaite. Sa connaissance est parfaite. Mais être lui-même créateur de monde, ça, il ne peut pas. Ça n'a pas été donné. Et donc, du coup, pratiquement, c'est tout ce qui lui manque. Et donc, c'est ce qu'il recherche. Se demande comment être créateur de monde. Et c'est ce que le Nachash vient lui annoncer, il vient lui dévoiler. Voilà. La création de monde, elle dépend de la consommation de l'arbre. Mangez et vous serez créateur de monde. Dans Pirkei Avot, troisième chapitre de Pirkei Avot, Chavivin Israël, Shenitan Lahem Kli Chemda. Les Bnei Israël sont très chers à Hachem. Il leur a donné un instrument hautement désirable. Pibaya. C'est un amour encore plus grand. Nodat Lahem leur a été manifesté. Parce que Kli Chemda Shebo Nivra Olam. Ce n'était pas simplement un instrument extraordinaire, mais c'est l'instrument avec lequel le monde a été créé. La Torah, elle est appelée ici Kli Chemda, un instrument hautement désirable avec lequel le monde a été créé. C'est pas simplement pour faire joli, c'est la définition de la Torah. La Torah, c'est le marchir, c'est l'instrument avec lequel le monde a été créé. Et quand cette Torah a été donnée au Bnei Israël, alors on leur a donné le marchir, le moyen de créer des mondes. C'est ça la Torah, en fait. Adam Arishon cherchait Kli Shebo Nivra Olam. Il ne l'a pas trouvé. Il cherchait ce Kli avec lequel le monde a été créé. Il a cherché, il ne l'a pas trouvé. Il l'a cherché dans Etz Hadaat, Tov V'ra. Il a cherché dans l'âme de la connaissance du bien et du mal. Probablement que c'était plutôt dans le Etz HaChaim qu'il aurait dû le chercher, l'arbre de la vie. Mais en tout cas, quand on dit que d'avoir reçu la Torah, ça fait de nous qui avons reçu la Torah des Boré Olamot, des gens qui sont capables de créer des mondes, il ne faut pas imaginer créer des mondes comme quelque chose avec lequel on n'a absolument aucune relation. De toute manière, les choses avec lesquelles on n'a absolument aucune relation, elles ne nous intéressent pas tellement. Mais Kol Adam, chaque homme est créateur de monde. En vérité, on est sans arrêt en train de le faire. Mais bien sûr, il y a différents mondes. Il y a des mondes imaginaires. Il y a des gens qui créent des mondes imaginaires. Et il y a des choses, la Tava et le Yetzer. Le désir. Et le Yetzer, il porte le nom de Yotzer, n'est-ce pas? Yetzer, c'est quelque chose qui crée. Ça crée des mondes. C'est un monde. Il y a un monde du désir, un monde. Mais ce sont des mondes qui n'ont pas de kiyum, ils n'ont pas de durée. Ils n'ont pas de valeur. Non, absolu. Et c'est à ça, en fait, qu'on s'occupe pratiquement tout le temps. Et probablement que ça aussi, Adam Arishon savait le faire. Donc, créer des mondes, en soi, c'était pas quelque chose d'étranger. Mais les mondes qu'il créait, c'est des mondes comme on l'a dit, de l'imaginaire, et dans lesquels il y avait un goût de chet, un goût de faute, en fait. La Torah, c'est ce kli chemda, shebo, avec lequel on crée des mondes qui ont une réalité, des mondes qui vont durer. On a déjà parlé du problème de la durée des mondes, n'est-ce pas? C'est le monde qu'Hachem a créé, c'était un monde dont Hachem, enfin c'est présenté comme ça, dont Hachem voit qu'il n'est pas capable, qu'il n'a pas de durée. Le monde qui a été créé, Alpidin, il n'a pas de durée. Shitef, il a fallu associer la Midat HaRachamim pour qu'il y ait de la durée. David HaMelech, il n'a pas de durée. David va être créé, mais il va mourir tout de suite. Et si Adam Harishon ne lui donne pas les 70 ans, il ne dure pas. Donc c'est toujours deux choses complètement distinctes. Créer et durer. On peut créer, mais des choses qui ne durent pas. C'est des bulles. Celui qui a été créé et qui ne durera pas, c'est Hevel. Hevel, c'est une bulle. Il est de la buée. Hevel, il ne va pas durer. Cette réalité spirituelle qui dure justement, qui dure pour l'éternité, c'est ce que peuvent produire les mitzvot et la Torah. Ce marchir là, cet instrument, a été de l'Israël. Adam Harishon savait nommer Beruach HaKodesh. Il avait une inspiration qui... Cette inspiration, elle appartient à Tselem Elokim. Il y a une inspiration, il y a un Ruach HaKodesh qui est inhérent à la condition humaine. Disons, avant qu'on s'abîme, c'est Tselem Elokim. Dans Tselem Elokim, il y a du Ruach HaKodesh. Donc ça, il le savait, il savait faire. Il connaissait tout. Mais il ne pouvait pas le créer. Créer des mondes, ça, il ne pouvait pas. Il ne savait pas comment on faisait. Imaginez quelqu'un qui est devant un réseau électrique, ou... extrêmement compliqué. Et il maîtrise complètement ce réseau. Il sait exactement où chaque fil, où il va, et qu'est-ce qu'il fait, etc. Seulement, il n'a pas accès à l'interrupteur général. Il a un réseau parfait. Il le comprend parfaitement, mais il ne peut pas le mettre en marche. Il n'a pas accès à l'interrupteur général. Au clan Israël, il a été donné ce fameux kli chemda avec lequel le monde a été créé. Le Beddin shel Mata. Le Beddin. Il décide. Et il tranche, et il fixe les années, et ça a force de loi, dans tous les mondes, en fait. Chazal disent que les malachés Hacharet, les anges de service, demandent à Akadosh Baruch Hu, c'est quand Rosh Hashanah? Alors Akadosh Baruch Hu répond, on va descendre. Allez voir ce que décide le Bet Din Shel Mata. Qu'est-ce que décide le Bet Din? C'est eux qui vont décider. Le jour qu'auront fixé les Chachamim qui composent le Bet Din, Alors Akadosh Baruch Hu va siéger, il va juger. C'est notre Emouna, c'est ça. Notre Emouna, c'est que d'une certaine manière, si on regarde le mois d'Eloul, et qu'on se dit, ben, Eloul n'est jamais, quasiment jamais, complet. Donc vraisemblablement, au début d'Eloul, je sais quand tombera Rosh Hashanah. Mais c'est jamais qu'une statistique. Si jamais le Beit Din venait à décider, il va décider d'après les témoins, mais il pourrait aussi ne pas tenir compte des témoins. On les prend, mais il pourrait ne pas en tenir compte. Si le Beit Din décide que ce ne sera pas aujourd'hui, Rosh Hashanah, ce sera demain. Les témoins sont arrivés à temps. Mais le Beit Din juge que ça ne nous arrange pas de fixer Rosh Hashanah ce jour-là. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ça ferait, si on fixe ce jour-là, ça ferait tomber Yom Kippour, Erev Shabbat ou Motzei Shabbat, et on n'a pas envie d'avoir ça. Alors le Beit Din, qui est souverain, il décide, il dit, bon, ok, alors ça ne sera pas... Les témoins ont bien vu la nouvelle lune, je pourrais dire, dit le tribunal, le Koudash et le Rosh Hashanah seraient commencés. Je ne le dis pas, ça sera demain. Alors Hachem qui siégeait, enfin, qui s'était apprêté à siéger en quelque sorte, dans l'image, on s'imagine, Hachem il ferme ses livres, il reviendra demain pour juger. C'est le Beit Din Shel Mata qui a décidé, c'est valable, le jugement d'Hachem il est dans tous les mondes. Donc Hachem a jugé, il va juger en fonction de la décision du Beit Din Shel Mata. Le Beit Din Shel Mata a créé l'année, il a décidé jusqu'où allait l'année précédente et quand commence la nouvelle année. Donc il fixe les années. Nous, en fait, c'est vrai dans toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot ont cette chance. De bouleverser les choses, ou de réarranger, de bouleverser les choses à tous les niveaux, dans tous les mondes. Nous, on n'a pas vraiment conscience de cette grandeur des mitzvot, donc cette grandeur qui a été conférée au clan Israël en lui donnant des mitzvot. On ne se rend pas compte de ce que c'est que cette création. Ce psak din du Beit Din Shel Mata, cette décision du Beit Din d'en bas, qui a donc valeur de loi dans tous les mondes. Regardez, c'est encore un peu plus... Il faut un peu réviser nos idées. Vayomer Elokim yehi meorot birkia ha-shamayim. Hachem... Au moment de la création, il dit qu'il y ait des meorot, des luminaires, donc on parle ici du soleil, de la lune, des étoiles, dans le ciel. Donc le soleil et la lune. Quelle est la fonction du soleil et de la lune? Éclairer, chauffer éventuellement. Pas du tout. La Torah, elle présente pas ça comme ça du tout. La Torah dit... Il faut qu'il y ait ces meorot dans le ciel. Le havdil ben ayom ou ben alayla. Pour faire la différence entre le jour et la nuit. Vehayu le otot. Le moadim ou liyamim veshanim. Et ces luminaires seront des signes à partir desquels on déterminera les moadim, c'est-à-dire les rendez-vous du clan Israël avec Akadosh Baruch Hu. Puisqu'on va fixer le calendrier, et que les moadim sont fixés en tant que date du calendrier. Donc si je bouge le début du calendrier, le début du mois, ben je bouge tout. Le yamim, les jours, les années, tout ça, ça va être déterminé par le par les luminaires en question. Et ils seront aussi des luminaires pour éclairer dans le ciel et sur terre. Et Rashi dit, la fonction première, c'est de marquer le temps, de permettre de dominer le temps, de déterminer le temps. C'est-à-dire, en fait, de donner des signes à partir desquels le Beit Din d'Ebnei Israël décidera du calendrier. Et accessoirement, dit Rashi, ça va aussi illuminer. Mais c'est Ve'odzot. Ça aussi, ils le font. Le soleil ne vient pas. Premièrement pour illuminer. Il vient pour permettre. Il vient parce que il va jouer un rôle dans la détermination, dans l'accomplissement des mitzvot. Il a un rôle à jouer dans l'accomplissement des mitzvot. C'est ça son rôle fondamental. Ce à quoi Adam Arishon accédait, c'est quelque chose d'absolument formidable. Il comprenait, donc il avait une connaissance parfaite de toute la création. Encore une fois, dans chaque créature, il savait exactement quelle lettre avait été utilisée pour le créer, donc il savait exactement tout ce que recelait cette créature. Mais lui, comme on l'a vu, créer des mondes, ça il ne le pouvait pas, ça ne lui a pas été donné. Ils ont cherché, Adam et Chava, ils ont cherché cela. Et le Nahash qui a compris qu'il le cherchait, il leur a fourni sa réponse. Mais ce qu'il cherchait a été donné au clan Israël. C'est eux qui ont reçu ce marchir, cet instrument. Et avec ça, ils sont devenus créateurs de monde. À la fin des Mishnayot, on enseigne « Atid HaKadosh Baruch Hu la tête le kol tzadik ve tzadik shayo lamot » Dans le futur, HaKadosh Baruch Hu donnera à chaque tzadik 310 mondes. C'est marqué dans le pasouk Lehanchil Ohavai Yesh. Yesh, Yud, Shin, c'est 310. Shin, c'est 300, Yud, c'est 10. Mais d'où viennent ces mondes? Que Hachem va les donner, mais c'est pas dit qu'il va les. Le verset avec lequel. On justifie, sur lequel on appuie le fait qu'Hachem va donner à chaque tzaddik, c'est un verset qui dit « Lehanchil » La nachala, nachal, c'est ce qui coule de soi. C'est pas qu'Hachem va donner quelque chose qui est étranger en quelque sorte. C'est quelque chose qui vient naturellement. Parce que d'où viennent ces mondes-là? Ces mondes viennent du travail produit par le tzaddik en question sur terre. Et donc ça coule de son travail, c'est la suite naturelle de son travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on n'a plus besoin maintenant. On n'a pas besoin de nevoi, on n'a pas besoin de prophétie. On n'a pas besoin de Ruach HaKodesh. On n'a pas besoin de tout comprendre parfaitement, parce que tout nous a été donné dans la Torah. et avec des règles, les règles de fonctionnement, d'herméneutique, etc., on va trancher la halakha sans avoir besoin de Ruach HaKodesh. On peut toujours dire qu'il est là, mais on ne va pas faire appel à un Ruach HaKodesh qui se manifesterait comme tel. Vous savez bien, En Mashgichin Bebat Kol. On ne fait pas attention en ce qui concerne la halakha à un bat kol. Un bat kol, c'est une forme de prophétie. Vous savez bien, il y a eu ce fameux bat kol qui est venu à l'appui de la thèse de Rabbi Eliezer. Amad Rabbi Yoshua al Raglav. Rabbi Yoshua s'est levé, il a dit Lo bashamayim. La Torah n'est plus au ciel. Hachem, il peut bien faire remonter le ruisseau vers sa source. Il peut faire pencher les murs, etc. Ça ne nous impressionne pas. La Torah, elle nous a été donnée à nous, c'est nous qui tranchons. Nous sommes majoritaires, et nous ne pas comme Rabbi Eliezer. Ah, Rabbi Eliezer, c'est un génie. Ok, mais la loi, elle est tranchée par la majorité. Et nous, on a tranché autrement que lui. Et Hachem ne peut pas intervenir. Hachem a essayé d'intervenir, mais c'est irrécevable. Rabbi Yoshua a dit, on ne reçoit pas cette chose-là. Et Rabbi Nissim Gaon, sur cette sugya-là, dont le médecin, il dit... Mais puisque la Torah a été donnée aux hommes, comment se fait-il qu'Hachem ait envoyé un bat kol? Il sait bien que ça ne sert à rien. Alors Rabbi Nissim Gaon dit qu'en fait c'était un nisayon pour le clan Israël. C'était pour voir s'il faisait suffisamment confiance aux règles de la Torah pour aller y compris contre la manifestation d'un bat kol. C'est un nisayon pour eux, une épreuve. Est-ce qu'ils vont se rappeler qu'un Navi, donc le roi HaKodesh, il n'a pas le droit d'être Mechadesh, quoi que ce soit. La Torah a été donnée au Bnei Israël, elle nous a été donnée totalement. Nous avons tout. Il n'y a pas de reste. C'est un don sans reste. Ça, la Torah, elle est mitzvot. Celui qui nous a donné la Torah nous a donné toutes les connaissances, donné accès à toute la connaissance, et il nous a donné aussi tous les gestes qui sont nécessaires pour créer des mondes. Ces gestes, évidemment, ce sont les mitzvot. Le Ramban, dans la Hagdama, dans l'introduction à son commentaire sur la Torah, il écrit... שאב את כל חוכמתו מן התורה. שלום המלך לא חכם מכל אדם, מכל האדם. Toute sa sagesse, il l'a littéralement aspiré, pompé de la Torah. כל מה שידע מכל כוחות הבריאה, ce Vayarkem Kola Adam, tout ça ou l'amad minatora, dit le Ramban. Et quand on dit que Vayarkem Mikol Adam, ça veut dire Shlomo HaMelech était plus sage, plus chacham qu'Adam Arishon. Donc, si on fait le bilan, ce à quoi Adam Arishon est arrivé par Ruach HaKodesh. Shlomo HaMelech y est arrivé à partir de la Torah. Alors il semble, pour que le Ramban puisse dire une chose pareille, que lui il comprenait quelque chose. Il comprenait quelque chose dans la Torah qui est différent de ce que nous comprenons. Nous, on ne sait pas du tout jusqu'où les choses vont. Toute la chokhma de Shlomo HaMelech, elle est dans la Torah. Et où elle est dans la Torah? Nous, on ne sait pas où elle est dans la Torah. Et Ibn Ezra, dans Parchat Kitissa, hein, il écrit « Rekech » Les gens au cerveau vide, ils vont s'étonner, ils vont se demander qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait pendant 40 jours et 40 nuits auprès de sur la montagne, auprès d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? Alors Ibn Ezra dit, ces gens-là, ils ne savent pas que si quelqu'un se tient auprès d'Hachem, non pas 40 jours, mais 40 ans, et 40 fois 40 fois 40, ce qu'on veut, il ne saura rien de plus que un millième de, etc., de ce qu'a fait, de ce qu'Hachem fait. Il ne connaîtra pas les voies d'Hachem, et il ne connaîtra pas le sod de toutes les mitzvot que Hachem nous a ordonnées. Le sod des mitzvot, c'est-à-dire ce pouvoir qu'ont les mitzvot de fabriquer des mondes, de créer des mondes. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux auprès d'Hachem, tu ne l'auras jamais. Moshe Rabbeinu, qui par la suite il va prophétiser pendant 40 ans, dans le désert, lui, il va accéder à tous ces, il a accédé à tous ces sodotes, tous ces secrets qu'Hachem lui a dévoilés au Sinaï. Et à la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu a dit, Ata achilota leharot et avdecha et godlecha. Tu as commencé de montrer ta grandeur à ton serviteur. Donc tout ce que Moshe Rabbeinu a compris, tout ce qu'Hachem lui a montré, etc., durant toutes ces années-là, Moshe Rabbeinu dit, tu as commencé à me montrer les choses. La grandeur d'Hachem est insondable. Donc on voit que des Rishonim comme Ibn Ezra, comme le Ramban, ils avaient une certaine idée de la Torah, ils connaissaient des choses dans la Torah qui nous sont complètement étrangères. C'était un savoir absolument vivant qu'Hachem nous a tout donné en nous donnant la Torah. Maintenant, il faudrait quand même qu'on comprenne un peu mieux comment justement la Torah rend l'homme capable d'être Yotzer Olamot, de créer des mondes. Comment est-ce qu'il lui donne ce que Adam Arishon lui-même n'avait pas, même avant sa faute? Quelque chose nous aide, en fait, dans ce que le Chassid Yavetz dit sur Pirkei Avot. Le Chassid Yavetz, c'est pas le Yavetz. Le Yavetz, c'est Kohemden, c'est un Ashkenaz. Le Chassid Yavetz, c'était un Sfarad qui a fait ce commentaire assez extraordinaire de Pirkei Avot sur la Mishnah qui où Ben Azai Omer Everatz le mitzvah kala kachamura, court pour accomplir donc les mitzvot légères comme tu le fais pour les mitzvot lourdes, importantes. Et Ben Hazzaïn nous a dit ici quelque chose de très grand, après la Derech HaEmet, comme ils disent. C'est que Elu HaMitzvot HaElokiot Inyanam Nifla VeNisgav Meod. Ces mitzvot qui sont les mitzvot divines, elles sont absolument extraordinaires, elles sont extrêmement élevées. Mais ce qu'il nous a dit ici, c'est Kulam Kshurot Zubezu. Que toutes ces mitzvot, les 613 mitzvot, elles sont liées l'une à l'autre. De la même, il explique, de la même manière que Hashem est Echad, alors sa Torah elle est aussi Echad. Et c'est pas pour rien que il y a les fameuses 248 mitzvot positives qui correspondent aux 248 Evarim chez la dame, les membres de l'homme, les parties du corps, et des mitzvot assez qui correspondent aux 365 guidin, tendons, etc. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est lié. Adam, il est Betzalem Elokim. L'homme, il a été fait Betzalem Elokim. Et donc, il contient tous les mondes, tout est en lui, parce qu'il est Tselem Elokim. La Torah, ici il dit ce chidouche là, la Torah, c'est Tselem Shem Havaya. La Torah, ça a la forme, non pas d'Elokim, mais du tétragramme. La Torah, on sait bien qu'elle est. Balim y considère que la Torah c'est une suite de noms divins. L'écriture de la Torah c'est les noms divins. Donc elle est tissée, la Torah, dit-il, sur le nom divin, sur le tétragramme. C'est la Torah Hashem. Et donc elle est une, parce qu'Hashem est un. Et on dit à Torah ve à mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on appelle à Torah vers un mitzvah alors qu'on parle de toutes les mitzvot? Parce qu'en vérité, il n'y a qu'une seule mitzvah. Seulement, toutes les mitzvot sont liées les unes aux autres. Et quand, il termine en disant, Ukshayye lev atzelem haenoshi, el atzelem haeloki, hi a Torah, ni wachadim. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est unifier le tselem humain, le tselem elokim, si on veut, avec le tselem eloki, c'est-à-dire divin, mais en fait, le non-divin lui-même, il faut que ça se corresponde exactement, il faut qu'il devienne un. C'est-à-dire Tselem Elokim. Tselem Elokim, c'est tous les mondes qui sont gravés en l'homme. Et l'homme, d'une certaine manière, il est le Baal HaKochot Kulam. Il est vraiment le maître de toutes les forces. Mais avec le Tselem Elokim tout seul, on reste encore à l'intérieur du monde. Le Tselem Elokim, il est immanent, en fait. La Torah, les mitzvot, il n'y a pas de... Il n'y a rien de plus élevé. C'est bien au-dessus de tous les mondes, la Torah et les mitzvot. La Torah, c'est les noms divins. Et la Torah nous a été donnée... C'est ça que nous disons, Vekeraftan ul Shimcha Hagadol Sela Behemet. Tu nous as rapprochés de ton grand nom, en vérité. On dit Veshimcha Hagadol Vekadosh Aleinu Karata, Yom Tov. Ton grand nom, tu nous l'as donné, en fait. Comment? Batorah. avec la Torah. C'est-à-dire que l'homme qui pratique les 613 mitzvot, il acquiert un tselem, une forme qui est plus élevée que tous les mondes. Cette forme-là, c'est tselem du Shem Havaya, tselem du nom divin, tétragramme. Et donc, il est au-dessus de tous les mondes. Il est Davouk Bashem, il colle littéralement Hashem, Vatem Advekim Bashem Elokechem. Et là-bas, dans cette hauteur, là-haut, dans cette hauteur, là, il y a le fameux bouton, le fameux interrupteur général, dont on parlait précédemment. Là-bas, il y a la Zgoula, il y a la possibilité de créer des mondes. Celui qui est Davouk Bashem, il a une force divine. Et donc il est Yotzer Olamot. Kol zman she'adam nimtza betoch ha'olam, tant que l'homme est encore à l'intérieur du monde, tant qu'on est dans l'immanence, alors, même s'il contient tous les mondes sont dans cette immanence, mais il n'a pas le tselem du Shem Havaya, il n'a pas la forme divine, vraiment, du nom divin, tétragramme. Alors il ne peut pas créer des mondes. Si vous voulez, parce qu'il reste à l'intérieur, il faut sortir. Le tselemista gnilut shelcha sort de ce déterminisme, sort du monde. Dans son, encore une fois, dans cet Akdama, son commentaire à la Torah, le Ramban dit: Yesh biyadenu Kabbalah amitit. Nous avons une Kabbalah, nous avons une tradition, une réception, il faut dire. C'est kol la Torah ishmotav yidbarav. C'est le Ramban qui dit ce qu'on avait dit avant, ce qu'a dit le Chassid Yavetz, c'est un classique. On met les navin, et donc on va comprendre que les mitzvot que l'homme accomplit de façon parfaite, elles sont vraiment, elles sont les membres, les varim, les guidim spirituels. Et ainsi, il est davouk le gambré, comme ça, il colle littéralement au Créateur. Celui qui accède à cela, vraiment, il crée des mondes. Comme Chazal l'ont dit sur Betzalel, qui était Betzelkel, tu étais à l'ombre d'Hachem, à l'ombre d'Elokim, Sheyadal et Tsaref Otiot Shebaim Nivra Olam, Nivrou Shamaim Vaaretz. Il savait lui mettre bout à bout les lettres avec lesquelles le monde a été créé. C'est pas seulement qu'il a compris Shamaim Vaaretz, c'est pas qu'il avait la connaissance, mais il savait les mettre ensemble. Il savait pas ce qu'il fallait mettre, ce qui était ensemble. Ça, c'est Adam, je le savais, lui. C'est pas que seulement de savoir, de regarder après coup. Ah oui, c'est ça. Je sais exactement comment ça a été fait. Mais le faire, c'est une autre affaire. Lui, il savait vraiment associer. Donc, il a créé un nouveau monde, le Mishkan. Donc il a créé ce mini-monde qu'est le Mishkan. Il a créé ce monde-là, le Mishkan, dans un monde qui était plein de fautes et de... C'était un monde... Dans le monde, il y avait plein de fautes. Et lui, il a créé le Mishkan au milieu de ce monde où il y avait de la faute. Mais il l'a fait sur l'ordre d'Hachem. Donc, accéder à tout ça, et accéder à toutes les actions, ça nous a été donné à Matan Torah. Nous n'avons pas plus besoin de voir à Kodesh et de nous voir, parce que tout ça, nous avons tout dans la Torah. En fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut encore faire alors? Il faut le voir dans la Torah. Il est très possible que quelqu'un, toute sa vie, étudie, qu'il fasse les mitzvot, mais qu'il ne reconnaisse pas du tout l'élévation de la Torah. Il ne se rend pas du tout compte de ce qu'est la Torah. Bien sûr, nous élevons à étudier la Torah. On passe d'un niveau à l'autre. Mais pour que on nous dévoile d'une certaine manière la hauteur, l'élévation de la Torah, il faut même du Roi HaKodesh d'après Matan Torah. Même. Il y a deux enseignements du Tana de Eliyahu. Dans l'un, il dit Meidani alai shamaim va'aretz ben goy ben Israël ben ish ben isha ben eved ben shifra akol lefi ma'ase she'ose kach ruach hakodesh shore alav. Il dit, je témoigne que je prends à témoin le ciel et la terre, oui. Qu'on ait affaire à un goy ou un juif, un homme ou une femme, un esclave ou une servante, dans la mesure exacte des actions de cet homme, il aura Ruach HaKodesh. Ça dépend uniquement de ce qu'il fait, et pas de... Il peut être goy, il peut être juif, il peut être homme, femme, libre, non libre, peu importe. Et un deuxième enseignement, toujours du Tana de Eliyahu, qui dit Kivan shekara Adam, Torah, Nevi'im, Ktuvim, si l'homme a étudié le Tanakh, Shana Mishnah, Midrash, Halachot, Agadot, Shana Gemara, Pilpul, Lishma, il a étudié tout ce qu'il a étudié. Il a étudié l'Ishma de façon totalement désintéressée. Miyad, immédiatement, Ruach HaKodesh Shora Alav. Immédiatement, le Ruach HaKodesh descend sur lui. Alors, il faut comprendre. Qu'est-ce que ce deuxième enseignement apporte après le premier? Si on dit que l'homme il a Ruach HaKodesh en fonction. Alors évidemment que si quelqu'un étudie l'Ishma, ce sera en fonction des actions, évidemment il aura Ruach HaKodesh. Mais tu n'as pas besoin de me le dire. Une fois que tu m'as dit que dès qu'un homme a fait des bonnes actions, et en fonction de ses bonnes actions, il a Ruach HaKodesh, ben évidemment, étudier l'Ishma, c'est une bonne action a priori. Il est dit ici que les deux enseignements là parlent de deux situations distinctes. D'un côté, Kol Adam. D'un côté, tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui sont Tselem Elokim. Il peut arriver à Ruach HaKodesh. Un Yehudi, un juif, un goy, un homme, une femme, un homme libre ou une femme libre ou pas, tout le monde peut accéder à Ruach HaKodesh. Ça dépend du film à Asaf. C'est en fonction des actions de chacun. Et on peut accéder à Ruach HaKodesh, ça veut dire que les choses s'ouvrent et on comprend plein de choses. Ce que dit le deuxième, c'est avec Torah l'Ishma. Alors on a un Giloui et un Ruach HaKodesh, un dévoilement de Ruach HaKodesh. Le Hasig Torah Atzma, Alder Akatuv, Gal Enai Vehabita Niflot Mitorah Techa. À ce moment-là, il y a un dévoilement qui permet, le Roi HaKodesh, il ne va pas permettre seulement de comprendre le monde, si vous voulez. Le Roi HaKodesh va permettre de comprendre la Torah. L'ouverture, elle se fait non pas vers l'extérieur, mais d'étudier la Torah Lishma, ça donne une inspiration pour comprendre la Torah pour plus profondément. Habita niflaot mi Torah. Je verrai les choses extraordinaires qu'il y a dans ta Torah. Parce que, comme on a vu, nous on étudie la Torah. Shlomo HaMelech aussi, il étudie la Torah. Mais Shlomo HaMelech, tous les secrets de toutes les créatures lui sont dévoilés à partir de la Torah elle-même. Nous aussi, on a besoin d'un Roi HaKodesh pour avoir accès à ça. Et ça, c'est l'héritage de tout celui qui étudie l'Ishma, qui étudie de façon complètement désintéressée. Et peut-être que on peut comprendre ces choses un peu mieux, là, tout ce qu'on vient de dire, avec le Midrash de Tehilim sur le Passouk. Le Passouk de Tehilim qui dit justement Gal enai ve'habita niflaot mitoratecha. Ce qui veut dire ouvre mes yeux, dévoile, dessine mes yeux, et je verrai que je vois niflaot, des choses extraordinaires mitoratecha. De ta Torah. Alors le Midrash dit comme ça. Il dit, David s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Ribono shel Olam, maître du monde, Rotzoncha she'eshmor dvarecha, tu veux que je garde, que je respecte tes paroles, Gal enai ve'habita niflaot mitoratecha. Alors dessine mes yeux que je vois l'extraordinaire. Si je comprends vraiment profondément la Torah, alors je n'aurai aucun mal à faire ce que tu me demandes de faire. Ve'im enata gole et enai. Et si tu ne dévoiles pas, tu n'ouvres pas mes yeux, minainai yoda. D'où est-ce que je sors? C'est pour ça que c'est marqué Gal enai ve'habita. Dévoile, enfin, ouvre mes yeux et que je puisse voir. Mais. Même si mes yeux sont ouverts, je vois rien. Boré, afalpi sheya Shmuel, Navi. Bien que Shmuel ait été un Navi, un prophète. Lo haya yodea klum. Hashem, il ne savait rien. Ad shegila kadosh baruch hu et ozno. Avant qu'Hashem ne lui ouvre les oreilles, en fait. Shenemar vashem gila ozen Shmuel. Un pasouk. Hashem a ouvert l'oreille de Shmuel. Même chose chez David HaMelech. David dit Gal enai ve'habita niflaot mitoratecha. Et il demande Venama plia dat mimeni. Plia, c'est toi. Ce qui est nifla, plia, extraordinaire, c'est la Torah. La Torah, elle est aussi présentée comme un matmon, comme un trésor. La souk dit, « Im tvakshena kakesef » Si tu recherches la Torah comme les chercheurs d'argent cherchent l'argent, ou que matmonim, et que tu la cherches comme les chercheurs de trésors, cherchent les trésors, etc. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de portes pour accéder à la Torah. Il y a beaucoup de portiques. Le pasouk dit Ashrei Adam Shomea Li Lishkod Al Daltotai Yom Yom. Heureux l'homme qui m'écoute et qui frappe régulièrement à ma porte chaque jour. David dit que c'est des portes, des choses absolument extraordinaires. Amar Moshe. Moshe Rabbeinu vient, il dit exactement le contraire. Moshe dit, Ena niflat. C'est marqué, lo nifleti mimcha. La Torah, elle n'est pas extraordinaire. c'est seulement Mimcha. Elle t'apparaît extraordinaire, c'est-à-dire, elle t'apparaît incompréhensible. Chez Lohamal Tabar, t'as pas assez bossé. T'as pas assez travaillé sur cette Torah. C'est pour ça que c'est marqué Niflaot Mitorotecha. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? David Amelach, il supplie. Ouvre mes yeux que j'y vois quelque chose. Cette Torah, elle est tellement extraordinaire que j'y vois rien, je comprends rien. Mon cher Rabbi vient, il dit, pas du tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est sûr que la Torah, elle est extraordinaire. Elle est complètement hors de ma portée. C'est le tselem du Shem Hashem, le tselem du tétragramme. Elle est entièrement non divin. C'est-à-dire au-dessus de tous les mondes. Encore au-dessus de tout ça, il y a le Créateur, évidemment, qui a mis dans la Torah toutes ces choses. Tout le monde étudie, genre chez Nagarta Para ou Arba Avot Nezikin, mais pour voir les Niflaot dans cette Torah, pour voir ça, hein, il faut Gilou Yenaim, il faut que les yeux soient ouverts. Et là-dessus, mon cher Abou vient, il dit que non. L'on est imimcha. Nous avons la possibilité d'accéder à la Torah. Et nous pouvons même entrer dans les plus grandes profondeurs de la Torah. Ça dépend uniquement de nos efforts. Et le Gilou et Naïm aussi, on peut le rendre obligatoire par le Amal à Torah, par les efforts dans la Torah. Parce que c'est comme ça que la Torah nous a été donnée. Nous a été donnée pour ça, la Torah. Elle est seulement étrangère, elle est seulement extraordinaire, elle nous paraît inaccessible seulement, parce qu'on n'a pas assez travaillé. Donc, comme préparation à Matan Torah, il faut qu'on sache ce qu'on a devant nous. Qu'est-ce qu'on va recevoir dans cette... On va recevoir la Torah, mais qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit Kli Chemda chez Bon Ivraola. Il nous donne quelque chose pour être créateur de monde. Rien moins que ça. Et comme dit mon cher Aminou, c'est pas réservé à des gens qui sont nés comme ci ou comme ça. Ça dépend de toi. Si tu la travailles, alors ça s'ouvre. Et donc la grande différence, c'est que donc Adam Arishon, lui, il est dans le monde. Dans le monde, il est parfait. Dans le monde, il connaît tout. Mais il ne peut pas créer des mondes. Il ne peut pas, parce que pour créer des mondes, il faut être à l'extérieur du monde. On ne peut pas créer des mondes à l'intérieur du monde, en fait. On va créer des mondes qui vont être à l'intérieur du monde, éventuellement. Comme Betzalel a créé le Mishkan à l'intérieur du monde. Et pour ça, il faut être Betzelkel. Il faut s'élever pour être à l'ombre d'Hachem. C'est-à-dire, il faut sortir du monde. Depuis l'extérieur du monde, là, tu peux créer dans le monde. Il faut sortir. Sortir du monde, C'est toute la démarche. C'est Mistagninut Shelcha. C'est les Bnei Israël qui transforment le sang de mort en un sang de vie. Les Damaï Chayi, comme on dit ça, tout mim, Brit Mila. Vie par tes sangs. Dans tes sangs, vie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit ce soir que c'était le Rav Volbé. Créer des mondes.
Non, je ne comprends pas. Créer des mondes, c'est ce que nous pouvons faire grâce à la Torah.
Il veut le faire. Il veut qu'il pourrait le faire en mangeant de Etz Hadat.
En quoi, où est la faute? Puisque son objectif, si on peut dire comme ça, c'était de pouvoir créer des mondes. C'est-à-dire ce pouvoir que nous octroie la Torah, si nous la travaillons. Lui, il a voulu avoir ce pouvoir à travers une autre forme en acquérant donc, ce qu'on appelle l'arbre de connaissance.
Oui.
Donc, où est la différence?
La différence, c'est que cette voie-là, en tout cas, Hachem l'avait interdite. Et si Hachem l'a interdite, c'est que ça n'aboutit pas. Pardon ?
On ne sait pas pourquoi.
Non. Il y a plein de choses que je ne sais pas pourquoi.
Oui, non.
Mais bon, Hachem a dit, c'est pas par là que ça passe.
Et c'est pour ça que ça nous renvoie à cet enseignement que la Torah, il faut l'acquérir, il faut que ce soit l'Ishma. Ça voudrait donc dire que lorsqu'il a voulu l'acquérir, c'était pour avoir un pouvoir, c'était pas l'Ishma. Est-ce qu'il y a un rapport?
Le lishma, ça ne peut pas être lishma si Hachem a dit de ne pas le faire. En fait, ce qu'on va expliquer, c'est que ce chemin a été un chemin possible. Mais il fallait attendre un peu. Ce Hetzadat Tovara, Shabbat, ce serait permis. Avec le Shabbat, il aurait pu avancer. Ce qui est. C'est l'impatience. Il a été créé juste avant Shabbat. Il fallait juste qu'il attende jusqu'à Shabbat. Oui, il serait entré, le monde aurait atteint sa plénitude, parce que Shabbat c'est Olam Haba. On serait entré directement dans Olam Haba. L'histoire aurait été réduite à quelques secondes, quoi. L'histoire c'était l'épreuve d'Adam Harishon.
Mais et s'il a fauté pour qu'on justement.
Parce qu'on n'est pas capable de faire sans.
Comment?
Nous ne sommes pas capables de faire sans la Torah.
Oui, et donc c'est peut-être grâce à lui qu'on a la Torah.
Oui, mais...
Si on renverse la chose, vous dites...
Oui, non, mais nous on a la Torah.
Vous avez dit pour la sortie d'Égypte qu'elle a eu lieu pour que nous-mêmes nous puissions sortir d'Égypte. Enfin, je veux dire avec mes mots, c'est sans doute pas terrible. Mais... ce que j'avais compris, et peut-être que c'est la même chose, qu'il faut pour que nous ayons la Torah.
Peut-être qu'il fallait, je ne sais rien, mais lui, son, Son problème, c'était pas d'avoir la Torah. Non, c'est parce qu'il a fauté, alors on a dû prendre un autre chemin. Le chemin qu'Hachem lui avait préparé, c'était, voilà, je te donne un interdit, tu le respectes jusqu'à Shabbat, et ça y est, c'est tout ce qu'on te demande. Parce que tu auras, de la sorte, tu auras montré présence d'Hachem dans le monde. Maintenant, il ne l'a pas fait. Lui, il ne l'a pas fait. Alors, on a essayé d'autres voies par la suite. On a essayé la voie des Avot, ça n'a pas marché non plus. On a essayé Matan Torah, ça n'a pas vraiment bien marché, on a fait le Chet HaEgel. Hachem a pardonné, et sans arrêt, de pardon en pardon, on s'est retrouvé là où on est. Mais avec une Torah donnée, ça veut dire que maintenant la Torah on l'a. Mais cette Torah, elle n'arrête pas de se développer en quelque sorte. Ça n'a pas été écrit en un jour, tout ça. Donc ça dépend aussi des situations dans lesquelles on a écrit le Talmud Bavli, enfin on a étudié. C'est considéré comme un ouvrage des ténèbres. Barbachakim Moshevani. Il y a un pasouk dans Echa. Il dit Hachem m'a installé dans les ténèbres. Et on dit, qu'est-ce que c'est Talmud Bavli. C'est Talmud Bavli. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut pour des... Que souvent on dit, nous sommes tous des... Avant d'être des Juifs allemands, on était des Babyloniens. Et... C'est ça. Nous sommes des gens du Galout. Pas seulement du Galout. Le Talmud Yerushalmi, il a aussi été écrit en Galout, au sens où on n'avait pas d'autonomie, etc. Mais nous, on est doublement en galoute, on n'est même pas sur la terre d'Israël. Bon, la terre d'Israël n'est absolument pas en notre pouvoir. Elle ne joue pas son rôle, la terre d'Israël. Elle ne peut pas jouer son rôle.
Mais ce que je voulais dire, c'est que quand Hachem pose l'interdiction à Adam, alors vraiment là, tout est ouvert. Hachem ne sait pas qui il va.
Oui, non, vous pouvez dire, c'est pas, on sait. Voilà, c'est. Oui, qu'est-ce qu'on sait pas?
C'est ouvert, donc.
Oui, mais le chemin que Adam choisit.
C'est dans un film, ça ne peut pas s'arrêter à la première scène.
Pour quelle raison? Si la première scène était extraordinaire, ça suffirait, non?
Ah
non?
C'est pas possible.
Non, mais il faut que vous compreniez que nous, avec ce que nous sommes des gens d'après le don de la Torah. Alors, c'est impossible, effectivement, de penser ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Mais parce qu'on est après. Parce qu'on est après le don de la Torah. La réflexion qu'on a faite, c'est très étrange. C'est pas. Adam Harishon n'est pas la Torah. C'est pas quelque chose que. Qu'on sait, si ce n'est dévoilé dans les textes comme cela.
Ouais, peut-être, mais c'est parce qu'on a l'impression que ça n'a pas de valeur, comment dire, pas éducative, c'est un petit bout. Ça n'a pas valeur de possibilité
non, mais...
à l'homme de transcendance ou de...
Non, parce que nous, on peut pas, nous ne pouvons pas faire ce qu'Adam Harishon aurait dû faire. On ne nous le demande pas, d'ailleurs. Nous ne sommes pas Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu, on n'a pas été créé par Hachem. Directement, on est. Donc, on n'a pas les mêmes armes, ni la même tâche, et pas le même chemin. Mais Adam Harishon, il a choisi un chemin qui implique l'existence d'une humanité qui va faire ce que lui, il n'a pas fait. Cette humanité va se fier, elle ne va pas faire non plus. Alors, on va. Une autre solution, il va y avoir un Abraham qui va dire, moi je vais faire ce que l'humanité n'a pas fait. et puis ça ne va pas marcher. Alors Hachem dit, ok, sans leur donner la Torah, ça ne marche pas. Donc on va leur donner la Torah. Et on va les prendre en charge. Ils vont sortir d'Égypte, ils vont recevoir la Torah. Quand on leur donne la Torah, ils se cassent la figure sous la coupa, littéralement. Alors Hachem donne un délai, il donne un sursis. Le sursis tombe avec les explorateurs.
Juste pour vous arrêter une seconde, c'est là où vous donnez les successions. Et là, à un moment donné, vous avez dit, quand il y a la sortie d'Égypte, dans ces événements successifs, vous avez expliqué cet événement pour le après.
Oui.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, si on revient dans ce genre de raisonnement, que ce premier événement, qui est la faute d'Adam, pourrait avoir lieu pour le après?
Oui, il a lieu, mais ce n'est pas qu'il y a l'après. Là-bas, quand Hachem nous dit que c'est pour l'après, alors on le sait. Celui-là, il est... Maintenant, nous, avec ce qu'on... Puisque c'est dans la Torah, alors c'est pour nous. Donc c'est obligatoirement... C'est pas que, en son temps, il était là pour ça. Ça je le dis parce que... Je l'ai dit sur la Yetziat Mitzrayim parce qu'Hachem le dit. C'est Hachem qui dit, je ne le fais pas pour... Je ne veux pas que vous soyez des anciens combattants qui racontez votre guerre. D'accord. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que vous racontiez.
Non, vous avez pas fait ça, vous avez dit que c'est pour le revivre, c'est-à-dire que...
Oui, pour que vous le racontiez, vous allez le raconter, le vivre, etc. C'est le récit, c'est le raconter. C'est le vivre. Mais ça, c'est, je peux le dire parce qu'Hachem l'a dit. Je ne peux pas le dire de moi-même. À la nuit, on s'en fiche. Mais maintenant, c'est sûr que vous pouvez demander, si vous voulez, vous pourriez dire, mais pourquoi est-ce que l'histoire d'Adam est dans la Torah? On parle d'un truc qui ne nous concerne absolument pas. Ça ne concerne pas des êtres humains ordinaires.
Parce que cette voie était possible.
Pardon?
Parce que cette voie, pardon, était possible.
Elle était possible, bien sûr, elle était possible. Mais maintenant qu'elle n'a pas été choisie, cette voie-là, alors il y en avait une autre qui est aussi une voie, c'est toujours des voies, que... c'est l'homme qui décide. Adam Arishon a décidé qu'il ne ferait pas ce qu'il a décidé de ne pas faire ce qu'il doit faire. Du coup, il a ouvert une autre porte. On est obligé de... C'est un autre passage, un autre cheminement. Bien sûr.
Le nom de la femme est perturbé, indéterré. Donc là, on revient vraiment sur Madame Torah et sur ce que vous venez d'indiquer concernant ce pouvoir extraordinaire des mitzvot de créer des mondes. Et c'est là où je suis troublé parce que, en fait, ici, en tout cas, comment je l'ai entendu, c'est que. On sent que, vous l'avez je crois même dit clairement, formulé de cette façon-là, on ne sait pas réellement ce que créent ces mitzvot, et elles ne sont pas dévoilées aux hommes. Donc ici, c'est difficile, parce que d'un côté on dit, voilà, je te donne la Torah, je te donne le pays Israël, et avec cette mitzvot, cette Torah, créer des mondes. D'ailleurs, bon, les mondes, on suppose que ce sont des mondes qui sont justement un peu extérieurs à ce monde immanent, vous l'avez exprimé. Bon. Alors, soit l'homme néanmoins reste un instrument, puisque de toute façon, ne lui dévoile pas. Il va créer, oui, il va pouvoir les créer, mais il ne sait pas où ça va, il ne les maîtrise pas, il n'y a pas de dévoilement. Et deuxième point, si je me demande comment l'homme, tel qu'il est conçu, peut se sortir de cette immanence et d'aller chercher à l'extérieur de ce monde pour créer également d'autres mondes comme Betzalel, qui a été, et vous l'avez dit, sous le couvert de Hachem, a pu créer dans ce monde le Mishkan, qui est bon, je veux dire. Monde de Kedusha dans un monde impur. ça qui me trouble un peu.
Quand vous dites qu'on ne sait pas, c'est ce que on ne sait pas. Moshe Rabbeinu, il l'a pas dit comme ça. Moshe Rabbeinu dit, si tu ne sais pas, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé. On ne peut pas savoir. On peut savoir. Il faut travailler plus. Shlomo HaMelech, il a travaillé plus, il a su.
C'est-à-dire quelqu'un qui, vous avez dit, qui pratiquerait les 613 000 votes pourrait passer à côté. C'est pas parce qu'on pratiquerait les 613 000 votes qu'on pourrait créer des...
Il y aurait un impact, mais qui n'est pas complet parce qu'il n'a pas conscience de la hauteur de la Torah. Il faut, à la limite, ce qu'on a fait ce soir, c'est seulement pour avoir conscience de la hauteur de la Torah, pour que quand on reçoit la Torah, matin de Torah, on ne dit pas, ouais, c'est intéressant, c'est une loi intéressante. Très bien, c'est...
C'est là, justement, ça rejoint ce que je voulais dire.
Je suis très heureux si ça rejoint ce que tu veux dire.
Non, mais c'est-à-dire que moi, je me suis posé la question par rapport à ce cours. C'est une façon, d'une certaine manière, de bien contredire Maaseh Mishma. C'est-à-dire que quand vous avez parlé de Shmuel qui entendait et que David voulait qu'on lui dessille les yeux, donc ça m'a fait penser tout de suite à tu entendras et si tu veux pouvoir créer des mondes, lui il demande il faut que tu me dessilles les yeux, donc il faut vraiment que d'abord comprendre avant de pouvoir faire, parce que c'est, d'essayer les yeux, c'est pour pouvoir comprendre. Alors, entendre, c'est comprendre d'abord, mais en même temps, enfin, il y a quelque chose qui est un peu inversé dans ce sens-là, j'ai l'impression.
David Améler, il pensait que il fallait qu'Hachem le lui donne. Et Moshe Rabbeinu il dit, Hachem nous a déjà tout donné, il n'y a qu'à travailler. Fais les choses. Hachem nous a déjà tout donné, c'est-à-dire il m'a dit ce qu'il fallait faire. Le naasé, c'est pas un naasé n'importe quoi. Le naasé, on va faire ce qu'Hachem nous a dit de faire. Et après, ayant fait ce qu'il nous a dit de faire, alors d'autres portes vont s'ouvrir. Et on va faire de nouveau avec ces portes, avec ce qu'on a compris, tout ce qu'on peut faire avec cette nouvelle chokhma qu'on a acquise. Et à ce moment-là, d'autres portes s'ouvriront.
Non, mais je veux dire, on a l'impression que pour Shmuel, comme c'est un avis, lui, il entend, il reçoit la parole de Dieu, mais il ne la comprend pas forcément.
Oui, mais il faut... C'est pour ça que j'aime le... Parce qu'au départ, on ne comprend pas, mais quand tu regardes dans la Torah... Ilan, il pense que, voilà, j'ai regardé dans la Torah, je n'ai pas vu. Tu n'as pas assez travaillé. On n'a pas assez travaillé. Si tu n'as rien vu.
Oui, vous dites en donné que, prenons l'hypothèse donc, que ce travail est fait et qu'il est bien fait. Donc, dans ces cas-là, l'homme se trouve en position de sortir.
Oui, mais quand vous dites sortir du monde... Quand je dis sortir du monde, je ne veux pas dire qu'il faut sortir du monde pour ne... La sortie du monde, c'est ce qui va me permettre de créer le monde. Mais je ne me sors pas du monde au sens où je n'appartiens plus au monde. Je suis dans le monde, mais comme quelqu'un qui, étant dans le monde, est capable de il a les pieds sur terre, mais il regarde les choses d'en haut aussi, et donc il a la possibilité de modifier le monde, en fait.
Oui, mais obligatoirement, elle a avec l'aide d'Hachem.
L'aide d'Hachem, elle nous a été... Bien sûr qu'elle est donnée, mais Hachem ne compte pas. Si vous voulez, il ne nous a pas dit, tu feras ça et après tu me demanderas. L'aide d'Hachem, elle est en quelque sorte acquise à celui. Je t'ai dit ce que tu fais. Si tu fais ça, c'est marqué dans la Torah, je t'aide. Je t'aiderai.
Il me semble qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui l'ont vécu, ça peut-être à part Moshe, à part
Oui, mais parce que quand on dit ce qu'on nous a montré, c'est les gens extraordinaires. Mais il y a des grands maîtres qui ont vécu ça à leur niveau, enfin à un niveau qui n'est peut-être pas évidemment celui de Moshe Rabbeinu, ou pas celui encore, j'en sais rien. Mais ils ont vécu cette chose-là, des gens qui ont un impact sur le monde. Alors, ça ne se dit pas obligatoirement, mais il y a des gens qui ont un impact sur le monde par leur mitzvot, par leur façon de se conduire. Ils ont effectivement un impact sur le monde. Nous avons tous un impact sur le monde. Mais il y a le monde. Pardon ?
C'est ça que vous appelez créateur de monde.
Quoi ?
Encore autre chose.
Il y a un impact sur le monde. Il y a un impact physique sur le monde.
Oui, c'est ça.
Tous mes gestes ont un impact sur le monde, ça fait aucun doute. Ça veut dire. Mais maintenant, il existe un impact sur le monde qui permet justement de. Enfin, il y a un impact qui est différent en fait, parce qu'il crée vraiment le monde. Nous, on modifie le monde, si vous voulez, avec nos actions. Mais on ne le crée pas.
Alors, qu'est-ce que je dis pour éviter la confusion, parce que c'est des termes tellement abstraits, enfin, qui peuvent être investis à côté, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous pourriez donner un exemple, ou qu'est-ce que vous, pas concrètement, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette notion de créateur de monde?
Mais on l'a dit, je vous l'ai dit, je vous ai rapporté. Le Beit Din Shelmata.
Ouais.
Il crée le monde, il crée un monde dans lequel c'est lui qui décide les jours, les années, les mois, etc. C'est ça créer le monde, n'est-ce pas ? On a créé le jour du jugement. Hachem lui-même se plie au tribunal d'en bas. Hachem juge. Ouais. Mais le jour où lui, il a décidé de juger, si on peut parler comme ça, hein, d'accord ? Il se trouve que le Beit Din, lui, il a dit non, ça ne nous convient pas ce jour-là, on fera demain. Et Hachem accepte que ce soit demain. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël vont se préparer pendant 2 jours pour recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu dit non, moi je trouve que ce serait mieux 3. Hachem accepte.
Ça je comprends.
Mais Hachem lui donne les louchot.
Créateur de monde pour des hommes, ça pourrait être quoi? Ça a été quoi? Parce qu'il y a peut-être
eu
des hommes qui ont.
Mais c'est ça, reprenez. Qu'est-ce que c'est? C'est être jugé aujourd'hui ou demain, c'est complètement différent. D'un jour à l'autre, je peux faire tchouva et être jugé complètement différemment. Je suis dans un autre monde, je suis jugé peut-être là positivement, et là maintenant entre temps j'ai eu le temps de faire une avéra. Il ne faut pas beaucoup de temps pour changer le monde. Shaoul, en ne tuant pas le roi d'Amalek, il a permis qu'Amalek continue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a engrossé une femme, ça y est, c'était terminé. S'il l'avait tué tout de suite, c'était terminé, on en avait terminé, peut-être, avec Amalek. Et c'était très important, Amalek, c'est très 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 important.
Et donc c'est des moments de décision.
C'est un moment où il a changé le monde, parce qu'il pouvait faire un monde sans Amalek, maintenant il a fait un monde avec Amalek.
Il a pas pris la bonne décision.
Oui, bon, c'est... Oui, mais ça dépend de lui.
Mais il y a aussi des créateurs de mondes mauvais, justement.
Oui, mais là, en l'occurrence, c'était mauvais. Mais personne n'a dit que c'était bon, obligatoirement. Mais je vous ai dit que c'était pas obligatoirement bon. Hachem n'a pas créé un monde dans lequel les choses étaient déséquilibrées. Si on peut faire bien, on peut aussi faire mal. L'Etz Hadat, il est Tov Vara. Et c'est pas ça la tov. Même si en réalité le mal, il n'a pas du tout le même degré d'existence que le bien. Il y a des niveaux où le mal n'existe pas. Où il existe sous forme d'absence du bien. Mais pas positivement comme. Enfin, pas négativement comme mal. Seulement une absence de bien. Mais c'est complètement différent. C'est un monde, le monde est différent. Dans l'immanent, on comprend bien qu'on peut créer des mondes, on peut créer un monde, c'est-à-dire, je crée un monde pour l'autre par un sourire, c'est-à-dire, il est dans un autre monde depuis que je lui ai souri.
Oui, c'est ça, je pensais à ça des fois, les abus de langage, on dit le monde de l'industrie, le monde de la nuit, le monde de...
Ce sont des mondes, mais ce n'est pas de ça qu'on parle.
Oui, voilà, c'est pas
ça. Mais ce sont des mondes. Pourquoi on a besoin de ces mondes-là pour comprendre? C'est pas rien, c'est pas pour rien que ce monde s'appelle un monde, probablement. Ces mondes-là. Parce que ça nous donne des idées sur ce qu'est-ce que c'est qu'un monde. La variété des mondes, si on voulait le monde imaginaire, etc.
Est-ce qu'un artiste, un écrivain, ça, c'est des créateurs de monde?
Oui, c'est un créateur de monde immanent. Voilà, il ne crée pas un monde.
Ça
ne crée pas dans tous les mondes.
Ça, voilà. Ça peut avoir une influence sur.
Oui, ça peut avoir une influence sur beaucoup de mondes, beaucoup de gens.
Voilà.
Beaucoup de mondes, de ces
et
mondes. Si on considère que chacun d'entre nous est un monde, effectivement, un écrivain peut avoir un impact sur plein de gens.
Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que j'ai bien compris, vous avez parlé de même quelqu'un qui ferait un doctorat des spots et qui peut passer à côté de la Torah.
Il peut passer à côté de la remoumoute de la Torah. Il peut passer à côté de la grandeur de la Torah. Quelqu'un peut très bien pratiquer les choses, étudier la Torah, mais il y a des gens qui tout ce qu'ils étudient les choses, mais bon, ouais, d'accord, c'est, pourquoi pas. C'est, ils pourraient aussi bien étudier le Dalloz, je veux dire, ou étudier n'importe quelle science aussi, ça ne change pas leur vie.
Vous croyez vraiment que c'est possible?
Étudier. Si on a un maître conséquent, il est justement là pour que tu étudies pas comme ça. Sinon, c'est pas un maître. Mais il y a des tas de gens qui étudient avec des faux maîtres. Ouais. Comme, ouais.
Voilà.
Pardon, le.
C'est une mise en garde.
Ben oui, c'est un avertissement pour. Ici, c'est une préparation. Comme toute préparation, la fonction, c'est de nous rendre capables de mieux vivre Shavuot. Donc, il me semble que, avec ce qu'on a dit là un peu, on peut entendre dans le Matan Torah un peu autre chose. Le Matan Torah, il a une dimension différente, simplement. On nous saoule avec c'est la loi, etc. Bon, c'est pas la loi. C'est... Voilà.